Loïc Tassé, spécialiste des questions internationales. Bonjour Loïc.
Bonjour Bernard.
Alors, il y a toute cette controverse autour de ces enfants qui sont séparés de leurs parents et qui sont dans des espèces de camps, dans des cages aux États-Unis.
Oui, en fait, des cages, on exagère un peu, mais quand même, c'est des clôtures, tu sais, c'est grillagé.
Ben...
Claquage, c'est peut-être qu'avec un plafond, mais ça s'apparente à ça. Et il faut dire, ce sont des enfants, c'est très cruel, hein, c'est épouvantable, ce sont des enfants de parents qui ont traversé illégalement la frontière aux États-Unis, qui se font arrêter. Les parents sont accusés d'avoir traversé illégalement la frontière. Et les enfants, ils sont trop jeunes pour être accusés. Ils sont envoyés dans des centres de détention pour enfants où on les parque littéralement. Parfois, effectivement...
Est-ce qu'on les garde parce qu'ils sont citoyens américains, parce qu'ils sont nés de...
Non.
Ils sont, eux-mêmes sont illégaux aussi?
On ne parle pas de ceux-là. On parle de ceux qui viennent de traverser, qui ont traversé avec leurs parents assez récemment. On parle de ces enfants-là. On ne parle pas des Dreamers.
D'accord.
Ce n'est pas ceux-là.
Alors, pourquoi on ne leur permet pas de rester avec les parents?
Eh bien, parce qu'on dit que les parents ont commis quelque chose d'illégal. Eux, on les envoie en prison.
Okay.
Et les enfants, on ne veut pas les envoyer en prison. Donc, on les envoie, de manière séparée, dans des espèces de maisons, en attendant d'être placés dans des familles d'accueil, etc. Sauf qu'on sépare les parents des enfants. Et ça, c'est très
cruel.
Les
enfants vont être placés dans des familles d'accueil?
Oui.
C'est terminé?
Oui. Alors, le temps que les parents purgent leur peine ou qu'ils ressortent des États-Unis.
OK, mais c'est ça, là. Mais si, mettons qu'ils sont expulsés, ils vont les expulser avec les parents?
Normalement, oui.
Mais quand même. Ça pourrait durer, la
mais
procédure.
Écoute, il y a des enfants. Écoute, tu imagines les drames des enfants.
Mais c'est totalement
des enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans.
Je veux dire, peu importe. Leur vie est brisée, là.
C'est extrêmement cruel de faire ça. Et tu dis, écoutez, là, il y a d'autres façons de faire ça, il me semble. Mais non, Jeff Sessions, procureur général, en remet. Il a ressorti encore sa vieille déclaration d'il y a 1 an en disant que la Bible, figure-toi, autorisait ça parce que la Bible, n'est-ce pas, ordonne aux gens d'obéir au gouvernement. Et tu diras, si tu connais un peu ce genre de déclaration, c'est le même type de déclaration qu'on utilisait aux États-Unis pour justifier l'esclavage. On peut toujours tout faire dire, tu sais, la Bible, au Coran,
bien
à n'importe quel livre religieux,
bien sûr.
Tout est son contraire. Sauf que c'est le procureur général des États-Unis qui est le gars qui devrait justement dire non, écoutez, c'est la loi qui prévaut, hein, pas les livres religieux, qui fait cette déclaration. Et en même temps, t'as Trump qui s'enflamme et qui dit « Ah, les États-Unis ne deviendront pas un camp de migrants, etc. » Ce qui est de la base démagogie, là, on s'entend. Mais il y a beaucoup de gens qui sont contre ça aux États-Unis. Même la femme de Trump déclare qu'elle est contre ça.
Mélania.
Exactement. Des leaders religieux disent « Non, écoutez, en répondant à Sessions, c'est pas ça qui est écrit dans la Bible de toute façon, etc. »
Elle en appelle, Mélania, à un compromis avec les démocrates.
Oui.
Sur une réforme de l'immigration,
alors,
qui mettrait fin à ça.
C'est la faute des démocrates.
Oui.
Mais je te fais bien remarquer que les séparations des parents et des enfants n'avaient pas lieu du temps d'Obama. C'est Trump. C'est l'administration Trump qui fait ça. C'est pas du tout l'administration d'Obama qui avait fait ça. C'est pas du tout les démocrates. Et en effet, comme tu le dis bien, Trump essaie de pousser sa réforme et il dit, écoutez, c'est ce que Sessions a par exemple dit. S'il y avait un mur entre le Mexique et les États-Unis, on n'aurait pas besoin de séparer les enfants. Tu vois où on en est rendu. Écoute, c'est juste qu'on a une politique ici qui n'a pas de bon sens, qui est cruelle, et il faut arrêter cette cruauté-là. Je suis d'accord pour qu'il y ait des solutions. Je ne suis pas d'accord pour dire tu sais, que l'immigration illégale est une bonne chose, ou que ce soit, ni aux États-Unis, ni ailleurs.
Personne qui dit
mais
ça,
c'est une mesure cruelle.
Il y a même des prédicateurs évangélistes qui sont très, très pro-Trump, normalement, et là, qui ont dit ça n'a pas d'allure.
Ça n'a pas d'allure.
C'est inhumain, là, que totalement, inhumain, totalement inhumain.
Je pense que n'importe qui a des enfants comprend que ça n'a aucun sens ce que Trump fait là. Mais sa cote de popularité, je regardais ça, elle est à 44,4% ce matin, en hausse.
Son taux d'approbation, tu as tout à fait raison. Parlant de Trump, tiens, faisons un petit détour par la Corée et le Japon, tiens,
si
parce que ça concerne les États-Unis.
La Corée et le Japon, ça c'est une nouvelle qui est passée un peu en dessous du radar, mais je te l'amène parce que je la trouve très intéressante. C'est un des proches conseillers de Shinzo Abe, plusieurs en fait, qui trouve que en fait il y a des gros problèmes en ce moment entre les États-Unis et le Japon, et ce sont des gens qui commencent à se demander si c'est pas risqué de laisser le destin du Japon aux mains d'un autre pays. C'est la citation que je viens de te sortir là. Et ils disent, écoutez, d'un côté, on paie pour les 50 000 soldats US qui sont dans les bases japonaises.
Notamment à Okinawa,
Notamment, oui. Et c'est une sorte de paiement de guerre, mais est-ce que ça ne va pas augmenter ces coûts-là si Trump ferme les bases en Corée du Sud? Est-ce qu'on ne va pas avoir plus de bases au Japon? Alors, ils se posent des questions là-dessus. Et d'autre part, ils disent, on n'aime pas non plus que les impératifs de sécurité soient uniquement liés à des questions mercantiles, comme le fait Trump. Eux disent, les Japonais, écoutez, on défend aussi la démocratie, les valeurs communes, etc. Et les États-Unis ne semblent pas très bien nous comprendre. En plus, ils sont sortis du traité transpacifique. Donc, on est en train de se demander si les États-Unis sont le bon allié pour nous dans la région. C'est ça qu'à mot couvert, des gens très, très proches de Shinzo Abe sont en train de laisser filtrer. Et crois-moi, ce n'est pas un hasard si ça sort dans les journaux en ce moment.
Voilà, ça, c'est toute l'instabilité qui découle, dans le fond, du sommet avec Kim Jong-un. On s'entend, parce que là, les alliés américains commencent à se dire, est-ce qu'on peut se fier sur le... Dans le fond, c'est le parapluie nucléaire américain.
Exactement.
S'ils commencent à fermer des bases, à mettre fin d'abord aux exercices militaires, fermer éventuellement les bases américaines.
C'est ça.
Il va arriver quoi avec les bases américaines du Japon?
Ça pourrait éventuellement partir aussi.
Ben oui, voilà.
Ou être... Mais en fait, en théorie, à long terme, ça devrait renforcer l'alliance entre les États-Unis et le Japon. Mais on ne sait pas du tout vers où s'en va Trump.
C'est ça, exactement. Par contre, il y en a une où on se rend compte là, qu'elle est de plus en plus vulnérable.
Tu vas me parler
d'Angela
Merkel.
Ça ne s'en va pas dans la bonne direction, elle.
Non.
Hein, Angela Merkel.
Ça ne va pas bien pour elle. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans son parti, le ministre de l'Intérieur, qui n'est pas de... Enfin, dans sa coalition, hein, il n'est pas de son parti, le ministre de l'Intérieur, mais c'est une large coalition, a décidé de refouler les immigrants à la frontière de l'Allemagne, ceux qui s'étaient en tout cas inscrits dans d'autres pays, Madame Merkel dit « Non, je ne veux surtout pas que ça arrive. Pourquoi ? Parce que ça pourrait avoir une espèce d'effet domino et je ne veux pas que, je ne veux pas que, parce qu'on refuse des gens, toute l'architecture de l'immigration en Europe s'effondre. » Mais le problème, c'est que la droite bavaroise, qui est dans la coalition de Madame Merkel, c'est le SCU,
CSU.
Veut absolument pas de ça. Veut absolument refuser les immigrants à la frontière allemande.
Fait que elle a un ministre, le ministre de l'Intérieur, c'est pas n'importe qui.
Non.
Qui fait partie de son gouvernement et dans le fond qui a pris une décision avec laquelle elle n'est pas d'accord.
Elle a opposé son veto à cette décision. Or, le ministre de l'Intérieur, en fait, c'est la droite bavaroise, le CSU, lui donne 2 semaines pour trouver une solution. Et si elle trouve pas de solution, ben, ça se pourrait que son gouvernement tombe.
Et là, il se retrouverait soit avec un nouveau gouvernement de coalition, puis ça a été très difficile de créer celui-ci, ou encore
avec des élections.
Ben oui.
Et comme si c'était pas suffisant, le brave Donald Trump, aujourd'hui, a dit que les Allemands refusaient la politique migratoire de Merkel, et je cite, il a dit « Le peuple allemand est en train de se retourner contre ses dirigeants. Hey, »
Mêle-toi donc tes affaires.
Il n'y a aucun sens, Trump. Ça va arranger les excellentes relations entre Trump et Mme Merkel. On le sait, les deux s'aiment d'amour tendre depuis longtemps. Je pense que Mme Merkel n'a pas du tout apprécié ce commentaire de Donald Trump.
Je suis bien d'accord avec toi. Le grand patron de la compagnie Audi, la grande compagnie allemande, donc qui a été arrêté, là, c'est dans la foulée du scandale des émissions diesel trafiquées. Non, mais attends, je veux pas qu'on aille là. Je voulais juste le noter vite, parce que je veux que tu me parles en terminant des élections en Colombie.
Ben, les élections en Colombie qui ont eu lieu.
Hein, c'est la droite qui a passé.
C'est la droite dure.
Et qui remet en question le traité de paix avec
Absolument.
Les FARC.
Il y a eu 53% de participation, ce qui est énorme pour la Colombie, parce qu'en général, ils font moins que ça.
Oui.
C'est Iván Duque, 41 ans, avocat et économiste soutenu par la droite religieuse aussi, qui est passé. Or, lui, en effet, ne remet en question tout l'accord qui a été conclu avec les FARC, les forces d'ex-guérilla. Lui, ce qu'il veut, c'est que, dit-il, les victimes soient plus compensées. Il trouve qu'on en a trop donné aux FARC, mais il a été élu très démocratiquement. Il fait partie, c'était le candidat du Centre démocratique. Il a fait 53,98% des voix. Contre lui, il avait Gustavo Pedro du Mouvement pour une Colombie humaine, qui a fait que 41,8% des voix.
Mais c'est un ancien guérillero.
Et c'est lui-même un ancien guérillero. En fait,
ouais.
du M19. C'est pas
ouais,
exactement
ouais.
la même chose.
Ouais.
Mais c'est un mouvement qui est né dans les années 70 parce qu'il y avait eu des élections frauduleuses. Bon, puis c'est à peu près dissous dans les années 90, mais tu as raison. Il était très proche du FARC, mais quand même, lui a dit « Je reconnais l'élection de mon opposant. Les élections sont valides. » Alors, on va voir ce qui va arriver. Mais tu sais, il y a beaucoup de problèmes de corruption. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Mmh. D'inégalité, de trafic de cocaïne en Colombie. On espère que le mouvement du FARC va pas renaître de ses cendres avec ce président très dur. Je ne pense pas.
Je crois pas, mais il va y avoir une période d'instabilité là, pendant laquelle... Puis il y a une petite guérilla, là, la ELN, qui, elle, n'a toujours pas signé d'accord de paix avec le gouvernement colombien. Alors, elle pourrait se réactiver, justement. Ça pourrait devenir le levier pour obliger le nouveau gouvernement de droite à... calmer ses ardeurs. Parce que faut pas... écoute, là, moi, pour y avoir été en Colombie, là, puis avoir été là comme correspondant, là, l'espèce de traité de paix auquel ils en sont arrivés, là, c'est quand même un gros, gros plus là, pour l'avenir du pays. Là,
mais
faut
oui,
pas
écoute, ça
question,
faisait quoi, 52 ans qu'ils étaient en guerre civile avec cette guérilla. Il fallait y mettre fin, absolument.
Voilà. Merci, Loïc Tassé.
Je t'en prie.
Dans un instant, on parle à la présidente du syndicat des employés de bureaux et de succursales de la Société des alcools du Québec. Il parle d'une grève qui pourrait survenir autour de la Saint-Jean-Baptiste. On a-tu besoin d'une grève de la SAQ, alors qu'on a besoin d'un bon vino, toi, pour fêter à Saint-Jean puis la fête du Québec? Pense pas, moi, là. Mais bon, elle va venir nous donner ses raisons dans un instant.